bien, comme promis, ce soir, nous allons parler des réglages de X-Plane. Allez, je vous laisse le temps de prendre de quoi noter. Bien, vous y êtes? Alors on va commencer par les réglages du vol réseau, les choses à prendre en compte ou à vérifier. Tout d'abord, dans X-Plane, ouvrez le menu Appareil, Autres appareils et situations, et vérifiez que le compteur Nombre d'avions situé en bas à gauche de la fenêtre affiche au moins 10 ou 11, voire plus. Sinon, vous ne verrez pas les appareils des autres pilotes qui volent avec vous. Toujours dans X-Plane, dans le menu Options graphiques, décochez Permettre les pistes inégales, en anglais Allow Slope Runways, qui est devenu Runways Flow Terrain Contour dans la version 9, afin d'éviter des décalages verticaux des appareils au sol, c'est-à-dire de voir des appareils s'enfoncer dans le sol. Bien, maintenant dans le dossier de l'application X-Plane, ouvrez le dossier Ressources, puis Plugin, puis X-Cooksbox Resources, et enfin CSL, et vérifiez que vous avez les CSL correspondant aux appareils qu'utilisent les autres pilotes. Sinon, vous les verrez dans l'appareil par défaut de X-Plane qui, si vous ne l'avez pas changé, est un Boeing. Et c'est toujours difficile de se persuader qu'un Boeing fait du stationnaire si vous participez à un vol hélico. De nouveau dans X-Plane, ouvrez le menu Plugin, Swagbox, Préférences. Et assurez-vous d'avoir affecté une touche pour établir le dialogue vocal avec le contrôleur. Personnellement, j'ai affecté la touche multiplicateur du pavé numérique. Toujours dans ce même panneau, vous pouvez ajuster la fréquence du changement de la météo dans le champ Check Weather Every, qui, par défaut, affiche 5 minutes. Si les conditions météo sont mauvaises, chaque rafraîchissement demande de nouveaux calculs au GPU et affecte un court moment la fluidité d'affichage. Toujours dans ce panneau, une autre petite chose qui mérite d'être signalée, c'est le dernier champ, qui indique le code ICAO de l'avion par défaut, c'est-à-dire celui que verront les autres s'ils ne possèdent pas le CSL correspondant à votre appareil, ou que vous verrez si vous ne possédez pas le CSL correspondant au leur. Maintenant, pour éviter toute interférence durant le vol réseau, assurez-vous aussi, dans le panneau Météo de X-Plane, que les deux cases Charger et Scanner la météo sont décochées. Et puis pendant que je suis sur le vol réseau, un petit mot sur les préférences de TeamSpeak. Dans l'onglet Audio, je rappelle que le curseur Input Gain sert à amplifier votre voix pour vos auditeurs et que le curseur Output Gain sert à contrôler le son en provenance de vos interlocuteurs et que vous pouvez garder ce panneau ouvert pendant que vous conversez. L'onglet Hotkey, quant à lui, vous permet d'affecter une touche diacritique, je dis cela pour Daniel, et Daniel, si tu m'entends, je te salue, qui semble absolument vouloir affecter une touche clavier. Les touches diacritiques sont celles qui servent au raccourci clavier, les touches CTRL, ALT, COMMANDE. Personnellement, j'ai affecté la touche ALT ou OPTION sur Mac. Et pour ceux qui connaissent et utilisent Controller Mate, il est possible d'affecter un bouton de joystick à cette touche. Et je remercie au passage Manu G pour ses tutos sur mon site. Manu, si tu m'entends, je te salue. Quant à l'onglet Voice Activation, il ne devrait être utilisé que par l'animateur d'un vol réseau. En effet, cette case cochée détecte votre voix et active l'émission, donc sans utiliser de touche. Le curseur permet d'ajuster la sensibilisation de la détection. Maintenant, passons au réglage des appareils. Par défaut, les processeurs se partagent à égalité les calculs concernant les scènes et ceux concernant un appareil piloté. Mais si vous pilotez un appareil aux commandes sophistiquées, et là je pense au B737 de Benedict, ou plus simplement aux hélicoptères qui font appel à de nombreuses ressources, vous pouvez répartir les calculs en affectant une plus grande proportion à ceux dédiés à l'appareil. Pour cela, Allez dans le menu Réglages, Opérations et Alarmes, où vous verrez, en haut du panneau, un compteur Flight Model Per Frame qui affiche 1 par défaut. Ce qui signifie qu'à ce stade, tous les calculs par image sont répartis à égalité. Personnellement, lorsque je pilote un hélico, j'incrémente ce compteur à 4 de manière à ce que les calculs par image concernant l'appareil soient 4 fois plus importants que ceux dédiés à la scène survolée et à sa météo. Austin Meyer, quant à lui, recommande de mettre à 2 si vous voulez avec un taux d'image, c'est-à-dire un framerate assez bas quand vous utilisez un petit avion, ou si vous pilotez un avion rapide type avion de chasse. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même un élément important à prendre en compte. Maintenant, on va passer au réglage du joystick. Je vais vous parler de l'onglet centrage qui est souvent royalement ignoré. Simplement pour vous dire que les curseurs sont réglés par défaut sur 25%. Ceux de gauche concernent les mouvements du joystick dans les trois axes. Ceux de droite concernent leur stabilité. Dans les deux cas, plus vous augmentez le pourcentage, plus vous êtes censé vous rapprocher de la réalité. Pour les curseurs de gauche, à 0%, les actions sur le joystick seront linéaires et le graphique correspondant affichera une ligne droite. La réponse sera donc immédiate. Mais dans la réalité, les commandes ont un peu de jeu. Donc, plus vous accentuerez le pourcentage, plus l'action sera exponentielle et le graphique affichera une courbe plus ou moins accentuée et le temps de réponse sera décalé. Pour les trois curseurs de droite, c'est le même principe, mais cela affecte la stabilité des trois axes. En gros, il vous sera plus facile d'effectuer un virage serré à 0% qu'à 50%. Mais ce n'est pas, à mon avis, une très bonne idée de s'habituer à piloter avec des réglages à 0%. Commencez donc avec les 25% par défaut et montez progressivement à 30, 40, sans pour autant dépasser 50%. Sauf, évidemment, si vous souhaitez simuler un vol dans un appareil hâtivement bricolé. Bien sûr, plus le pourcentage est élevé, plus la demande en calcul s'intensifie. Mais ce n'est pas très notable cependant. Voilà pour les réglages joystick. Et maintenant, passons à ceux des options graphiques. Vous l'avez deviné, c'est là que se situe le principal de vos problèmes d'affichage. Car vous êtes partagé entre la puissance de votre machine et votre curiosité. Alors, si votre machine est peu puissante au regard de X-Plane, un conseil, laissez tout par défaut. Sinon, commençons par la partie supérieure, dédiée à la résolution. Commençons par la résolution de texture. Plus elle sera élevée, plus vous aurez besoin de RAM, quelle que soit la vitesse de votre processeur. Si vous avez beaucoup de RAM, que vous voulez VFR et disposer des photoréalistes, alors prenez l'option extrême. X-Plane calcule la netteté du terrain en fonction de l'altitude, histoire d'alléger les calculs. Et c'est à partir de 1000 pieds sol que vous aurez les textures les plus nettes. Juste en dessous se trouve la résolution d'écran, c'est-à-dire la surface qu'occupera la fenêtre de X-Plane dans votre écran. Par défaut, elle est de 1024x768. Vous pouvez ajuster pour être en mode plein écran. Pour ce qui me concerne, je dispose d'un écran type 16/9, c'est-à-dire 1680x1050. Mais pour éviter des déformations d'image, je me contente d'une fenêtre 1300x1000 qui est beaucoup plus rectangulaire. C'est une affaire de goût. Il va sans dire, puisqu'il s'agit d'affichage, que GPU et VRAM seront mis là aussi à contribution. Avec la V9, une case « Lock at or below the frame rate of your monitor » est apparue. Je vous conseille de cocher cette case afin que X-Plane ne dépasse jamais le taux de rafraîchissement de votre moniteur. Sur la droite du panneau s'affiche un menu déroulant concernant l'anti-aliasing. Le niveau d'anti-alias permet un lissage des graphiques. Le champ de texte en dessous indique s'il a été réalisé, car cela demande un gros travail en tâche de fond. Si vous utilisez les photoréalistes, vous n'en avez pas vraiment l'utilité. Voyons maintenant la partie performance. En fait, elle parle d'elle-même. Tous les menus de densité de forêt, de distance des détails, de nombre d'objets, de nombre de routes affecteront directement les possibilités de la carte graphique. Et comme si cela ne suffisait pas, avec la 9.20 finale, deux autres menus supplémentaires sont apparus. Détails des aéroports et densité de trafic sur les routes. Ce sont des animations, tout comme dessiner les montgolfières, les oiseaux, les feux de forêt, qui sont consommatrices de GPU et de VRAM. Le filtre anti-isotropique. C'est ce qui permet de garder un aspect hétérogène aux textures et d'éviter de les voir se déformer lors de changements d'échelle, c'est-à-dire lorsqu'on s'approche ou qu'on s'éloigne, ou lors de virages serrés ou d'évolutions acrobatiques. Là aussi, la carte graphique doit assurer. Perso, je l'ai mis à 2. Et là, j'en viens au fameux pixel shader. Cette petite case, si vous la cochez, va demander le maximum à votre carte graphique. Pixel shader, c'est l'ombrageur de pixels. Tout un programme, au réel comme au figuré. Vous vous souvenez que la semaine dernière, je vous ai parlé des calculs du GPU pour représenter les textures des polygones qui constituent le relief et pour déterminer lesquels doivent être visibles ou non. Avec pixel shaders coché, il doit également calculer les ombres des parties visibles en fonction de la position du soleil. De plus, si vous papillonnez en Cessna ou en hélico, imaginez le travail. Et puisqu'on en est aux options confort de chez confort, lorsque vous cochez cette case pixel shader, une autre case et un autre menu font leur apparition. La case s'appelle Draw Volumetric Fog, en français dessiner le brouillard en volume, afin que vous puissiez évoluer dans des nappes de brume par météo humide et fraîche. Quant au menu déroulant, il vous permet d'ajuster la réflexion des vagues sur les étendues d'eau. Tiens, à propos de vagues, n'oubliez pas que vous pouvez en déterminer la hauteur, la longueur, la direction, la vitesse et le rapport dans l'onglet « Eau » des réglages météo. Je dis cela pour les amateurs d'hydravion. Et bien sûr, la réflexion des vagues tient compte de tout cela. Donc, prudence avec le pixel shader. Par ailleurs, totalement inutile en vol long courrier au niveau de vol 360 par exemple. En fait, tout cela devrait faire partie de la préparation de votre vol, ou plutôt de la checklist pré-vol. Bien, encore quelques autres petits réglages, comme le contrôle des nuages 3D. Il s'agit d'un ratio défini à 1 par défaut qui agit sur l'aspect des nuages, sur la taille des paquets et sur le nombre de nuages qui les constituent. Moi, j'ai trouvé que 0,3 bouffées de nuages pour une taille de 2 au niveau des paquets est assez proche de la réalité sans pour autant épuiser davantage le GPU, qu'en laissant 1 par défaut. C'est une affaire de test et de goût là aussi. Enfin, et pour finir, dans le panneau Options graphiques expert, gardez cochées les deux cases, compressez les textures et chargez les scènes en tâches de fond. Ça économise réellement de la VRAM et permet une transition fluide d'une scène à l'autre. Et voilà, c'est fini. Je vous rappelle que la plupart des choses dont je vous ai parlé ce soir est consultable sur le site des tutoriaux. Cette émission a été réalisée avec l'aide de Chouminou, de Mike Bravo Romeo, et avec les moyens techniques fournis par Webot, qui nous prépare un nouveau forum, Manu G, toujours retiré dans sa campagne algérienne, où il s'essaie au pilotage automobile en essayant désormais de bien rester au sol, sans oublier la régie sonore, les effets spéciaux, la régie publicitaire, les ingénieurs du son, le montage offline, TeamSpeak, Soundtrack Pro, Plantronic, Sennheiser, votre bécane et vos moyens de réception. Je vous dis bonsoir et à bientôt sur...
La radio qui décolle.
Je vous laisse digérer toutes ces informations en compagnie de mon groupe Helvet préféré.
Treatment. Shake. Shake and shiver. Shake. Shake and shiver. Shake. Shake and shiver. Shake. Shake and shiver.
Shake.